Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées à 19h23, on s'arrête sur ces intempéries qui ont ravagé l'arrière-pays niçois. Comment se prémunir du pire face à ces épisodes climatiques extrêmes? Le président de la République est toujours sur place, au chevet des sinistrés. Des villages ont été dévastés par les pluies torrentielles, faisant des dégâts considérables et au moins 5 morts. Alors tout cela était-il prévisible, évitable? Des voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer les fragilités de ces territoires face à la multiplication de ces phénomènes. On en parle ce soir avec nos invités. Hervé Le Treut, vous êtes climatologue, bonsoir. Bonsoir. Professeur à la Sorbonne Université et membre de l'Académie des sciences. On en parle également avec Yvette Véré, géographe et co-auteur de l'Atlas des risques en France, prévenir les catastrophes naturelles et technologiques. Bonsoir madame. Et on en parle également avec Boris Veliachev, architecte et ingénieur, spécialiste des questions de risques majeurs. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et avec également Jean-Pierre Vassallo. Bonsoir monsieur. Vous êtes le maire de Tende, c'est l'un des villages durement touchés par la tempête Alex. Vous avez reçu aujourd'hui la visite du chef de l'État, on va en parler. D'abord, j'ai envie de vous demander tout simplement comment vont aujourd'hui les habitants de votre village. Ils ont vécu, on le sait, l'horreur. Ils sont, on l'imagine, toujours profondément choqués par ce qu'ils ont traversé.
Oui, les habitants du village ont vraiment vécu l'horreur, c'est le terme exact. On a vécu un véritable bombardement. C'est-à-dire, le phénomène s'est aggravé le soir à partir de 18h où des pluies diluviennes avaient commencé à tomber. Vers le vendredi soir, vers 22h, on a commencé à nous appeler en disant que des maisons commençaient à partir. La rivière commençait à emporter des maisons. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé sans électricité, sans eau. Oui. Plus aucun moyen de communiquer avec qui que ce soit à l'extérieur de la commune.
Et coupé du monde pendant plus de 24 heures, c'est ça aussi
48 heures, coupé 48 pendant 48 heures.
48 heures.
Et nous, le centre commune, coupé, mais on avait 4 hameaux autour de nous, où il y a 30 personnes par hameau, entièrement coupés eux aussi. Donc on a vécu une nuit d'apocalypse, puisqu'à 23 heures, il a fallu évacuer un EHPAD, avec 70 patients. On est arrivé à évacuer un EHPAD dans des conditions extrêmes, plus battantes, sans électricité, sans rien, plus rien ne fonctionnait. On est arrivé à faire cela, et le lendemain, on s'est retrouvés alors là, enfermés tous en vase clos, plus aucun moyen aérien pour venir nous voir, aucun moyen, toutes les routes obstruées, les ponts sont partis. On se réveillait avec des yeux ébahis, on constatait un véritable bombardement, le pont avait été emporté, des maisons avaient été emportées, à la lumière du jour, on tombait des nues.
Monsieur le maire, des habitants de votre commune sont aujourd'hui portés disparus?
Malheureusement, on a un jeune berger qui est porté disparu, il était avec son frère, et son frère a pu s'accrocher à un arbre, il est resté pendant 4 heures accroché à un arbre, et il a vu son frère disparaître avec une partie du troupeau.
Le président de la République, aujourd'hui, ça vous a fait, vous, élu chaud au cœur, et puis aux habitants qui étaient là. On a suivi ça sur les images, notamment des chaînes d'information en continu. On a vu qu'il y avait une attente très forte de la part des administrés et des habitants des communes, et notamment de la vôtre. Comment a-t-il été perçu, le président de la République, aujourd'hui ?
Je crois qu'il a très bien senti le ressentiment qu'avait la commune, un sentiment de détresse. Ça a marqué tous les esprits. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu un élan de solidarité incroyable. Je crois qu'il n'y a plus que dans le milieu montagnard qu'on peut trouver cet élan de solidarité. Tout le monde a compris qu'on était en vase clos. Tout le monde a su vraiment se soutenir. Le président a vraiment pu entendre les gens s'exprimer sur leur détresse, sur la blessure qu'ils avaient subie, et il y a eu une demande unanime, vraiment, grand respect, parce qu'on a été contents qu'on se déplace. On se sentait un peu oubliés de tous.
Je vous ai écouté tout à l'heure, vous disiez quelque chose de très fort, vous disiez quand la machine France se met en route, c'est absolument phénoménal. Merci, Monsieur le Président, d'avoir lancé les opérations pour nous venir en aide. Une dernière question, Monsieur le Maire, il est sans doute pour vous trop tôt encore pour parler du long terme, mais pensez-vous qu'il soit prudent de reconstruire le village et les habitations de la même manière, si près de la rivière? Ces drames,
c'est
peut-être...
pas le village entier qui est parti. Attendez. Il y avait les maisons qui étaient en bordure de rivière, mais tout le vieux village n'est pas parti.
Bien sûr.
Les hameaux ne sont pas partis. Non, il ne faut pas. Maintenant, nous, on a la volonté tous de rester dans le village. Vous savez, on est tous ancrés dans nos villages. On a des populations de 2000 personnes, on a des racines qui sont très profondes. On veut garder un avenir, on veut garder un espoir pour nos enfants. Nos villages sont magnifiques. Moi, je dis toujours que mon village est le plus beau du monde. Donc, on s'accroche à cela. On a des emplois ici dans le village. On arrive à maintenir une population
importante. Mais peut-être réfléchir à des constructions moins exposées à ces risques climatiques.
Ah ben voilà. Et maintenant ben la rivière vient de définir exactement quel est son lit majeur. Ce qu'on n'aurait jamais envisagé, puisque après, il va falloir tenir compte vraiment de ce lit majeur de la rivière.
Voilà. Bien. Merci beaucoup pour votre témoignage, monsieur le maire, et on vous souhaite évidemment à vous et à tous les habitants de la commune beaucoup, beaucoup de courage pour traverser les mois qui s'annoncent. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h31, on s'arrête ce soir dans le débat du Club des idées sur ces intempéries qui ont ravagé l'arrière-pays niçois. Comment se prémunir du pire face à ces épisodes climatiques extrêmes? On en parle donc avec nos invités, Hervé Le Treut, notamment climatologue. Vous êtes professeur à la Sorbonne Université et membre de l'Académie des sciences. D'abord, est-il vrai que ce type d'épisode méditerranéen, c'est comme ça qu'on les appelle, est amené à se multiplier? C'est ce qu'on entend beaucoup. Est-ce que c'est vrai?
Alors c'est un épisode méditerranéen un peu particulier puisqu'il est né en Bretagne et qu'effectivement il a traversé tout le territoire français. Et c'est un épisode qui est un épisode qui... Enfin, tous les épisodes sont particuliers.
Oui.
Et ce qu'ils ont en commun, c'est effectivement d'avoir à la racine une relation avec le réchauffement global de la planète.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est lié au réchauffement climatique?
On est effectivement face à des épisodes qui sont nombreux, qui sont nouveaux et qui sont complètement en phase avec les changements climatiques globaux que l'on a. Alors, je pense qu'il faut réfléchir un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on met des gaz à effet de serre? On a un réchauffement global de la planète. Mmh, mmh. Ce réchauffement, il se traduit en des conséquences qui à chaque fois sont un petit peu plus compliquées à étudier. Quand on arrive au phénomène lui-même, il a plusieurs chaînes causales qui sont arrivées à lui. Mais globalement, on a des épisodes qui sont plus nombreux et qui sont liés à ce réchauffement global de la planète et qui seront plus nombreux parce que ce réchauffement global de la planète est dans une phase où il va s'accélérer et continuer.
Alors il faut bien se rendre compte de ce qui s'est produit dans les Alpes-Maritimes. Il est tombé l'équivalent d'un an de pluie à Paris, par exemple, en quelques heures seulement, ce qui est du jamais vu dans l'arrière-pays niçois, autant d'eau en si peu de temps, en 24 heures. Et des épisodes comme cela, je parle sous votre contrôle, ils s'en produisent entre 3 et 6 par an, avec une fréquence plus élevée en automne, car la mer est plus chaude. Donc ces épisodes de plus torrentiels, qui amène à des situations de dévastation, parce que c'est ça qu'on a vu sur les images. Il y en aura plus dans les années qui viennent, quoi qu'il se passe.
Chaque épisode est différent, c'est pour ça qu'il y a toujours une difficulté.
Mais le résultat est le même.
Le résultat, c'est quand même qu'aujourd'hui, quand on regarde à l'échelle de la planète, on a des épisodes un petit peu partout de ce type-là, que ce soit sur les deux hémisphères, sur tous les continents, ça se multiplie. Et ça va continuer à se multiplier. Mmh. Je pense que ce qui est important, c'est de réaliser qu'on a émis des gaz à effet de serre de manière extrêmement lourde dans ces dernières années. On émettait, dans les années 60, 10 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on en est à 40. Mmh. C'est multiplié par 4. Vous prenez un verre d'eau, vous faites couler l'eau dans le verre d'eau 4 fois plus vite. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et on continue avec les émissions de gaz à effet de serre.
Donc ça a un impact évidemment sur le climat et sur les catastrophes naturelles.
Donc cet impact
naturelles.
Est en train de croître parce qu'on continue à émettre des gaz à effet de serre. Surtout que tout est écrit, les gaz à effet de serre restent pendant un siècle à peu près dans l'atmosphère.
Oui.
Donc tout ce qu'on a mis se stocke et continue de se stocker. Donc en fait...
C'est irréversible.
C'est irréversible et c'est en augmentation. Il ne faut pas penser que ce qui va se passer, c'est ce qui se passe aujourd'hui, qui va continuer. Ça sera quelque chose de plus. C'est quelque chose qui est très difficile à faire comprendre aux gens.
Alors, réaction d'Yvette Véré, vous êtes géographe, co-autrice, je le disais, de l'Atlas des risques en France, prévenir les catastrophes naturelles et technologiques. Donc, vous connaissez bien le sujet. D'abord, est-ce que vous partagez le constat? Et puis, pour avancer et aller mettre les pieds dans le plat, voilà, est-ce qu'il faut, dans ces régions qui sont particulièrement exposées, le Var, l'Aude, les Alpes-Maritimes, est-ce qu'il faut renoncer à habiter dans ces zones proches des rivières, à flanc des montagnes?
Alors, je vous remercie. Je suis d'accord avec le professeur Le Treut, bien entendu, mais je voudrais quand même rappeler la permanence de ces événements qui doivent effectivement devenir plus nombreux et probablement plus plus fort encore, la permanence de ces événements dans cette région, comme dans les Cévennes, puisque c'est des systèmes climatiques assez proches. Et je vous rappellerai qu'en 1926, il est tombé 1000 mm au mois d'octobre, avec en 2 jours, 300 mm, par exemple. Et un énorme glissement de terrain s'est déclenché à Roquebilière, et qu'il a fallu, bien entendu, déplacer le village.
Oui, non, mais c'est vrai qu'on voit une accélération de ces phénomènes. Moi, j'ai noté que sur les 16 épisodes d'inondation les plus meurtrières sur les 100 dernières années en France, 6 ont eu lieu pendant les 10 dernières. Donc, je ne vais pas les citer, mais on sent vraiment qu'il y a une accélération.
Tout à fait, mais tout ça pour dire que tout de même, le risque et la catastrophe dans ces vallées est extrêmement connue, est extrêmement récurrente.
Et pourtant, on continue à y habiter.
Pardon.
Et pourtant, on continue à y résider.
Et pourtant, on y réside d'autant plus que nous sommes dans l'arrière-pays niçois, que ce sont des régions très attractives, notamment pour les résidences secondaires, mais probablement aussi pour des formes de périurbanisation, un petit peu loin de Nice, mais enfin, tout de même, on n'est pas très loin. Et en conséquence de quoi, il y a une augmentation de la population dans ces vallées qui n'est pas négligeable. Entre 1990 et 2017, un village comme Saint-Martin-de-Vésubie a augmenté de 400 habitants.
Ouais, très intéressant ce que vous dites, madame, parce que j'ai noté aussi une étude de l'INSEE. Les zones potentiellement inondables dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur représentent 10% du territoire, mais abritent 19% de la population. Voilà, ça représente 1 million d'habitants. 17% des logements sont construits depuis 2010, ça pour le territoire national, sont situés en zones potentiellement inondables. Réaction Boris Velia-Chef, vous êtes architecte et ingénieur spécialiste des questions de risques majeurs. Faut-il revoir l'urbanisation de nos villages et arrêter, encore une fois, d'habiter proche des cours d'eau, qui plus est à flanc de montagne.
D'habiter proche des cours d'eau, comme ça est dit, comme l'a dit le maire précédemment, il y a un limageur de la rivière qu'il va falloir complètement éviter. Ça, c'est certain que toutes les maisons et toutes les infrastructures qui étaient construites dans cette zone, en fait, ne devraient pas être construites ici. Ça, c'est clair. Bon, ensuite, il va falloir... Alors, bien sûr, comme le défendait le maire, il va falloir... Il y a une grosse partie de la population qui est quand même très ancrée au fait de vivre sur place. Ils sont là depuis plusieurs générations, etc. Il n'y a pas que des gens qui sont venus de l'extérieur s'installer là-bas aussi. Mais d'un autre côté, il va falloir apprendre à reconstruire autrement et à réurbaniser autrement, en prenant compte de l'aléa qui menace la région et qui va la menacer de plus en plus, parce qu'ils vont devenir plus fréquents ou plus intenses dans les années à venir. Donc il va falloir apprendre non pas à s'en protéger totalement, parce que de toute façon il reviendra, il est récurrent, et de toute façon on en aura des plus puissants et on en aura toujours il y aura toujours des aléas qui vont dépasser ce qu'on avait prévu. C'était le cas de la tempête Xynthia, il y a toujours des accumulations de phénomènes qui font qu'il y a toujours de l'imprévisible. C'est pas immuable, le risque zéro n'existe pas, donc il va falloir apprendre à vivre avec le risque plutôt que d'essayer de trouver la solution technique pure, parce qu'on a vu qu'elle a ses limites.
Oui.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du débat du Club des Idées, ce soir on s'intéresse aux intempéries qui ont ravagé l'arrière-pays niçois. Comment se prémunir du pire face à ces épisodes climatiques extrêmes? C'est la question au centre ce soir de notre débat. On en parle évidemment avec nos invités. Emmanuel Macron était aujourd'hui sur place, au chevet des sinistrés, à Tende notamment, où il a dit ceci.
Ce qu'on va reconstruire, on ne le reconstruira pas à l'identique parce qu'on connaît aussi les risques et on sait qu'il faut avoir quelque chose de plus résilient.
Voilà, c'est un aveu d'échec d'une certaine manière. Hervé Le Trott, vous êtes climatologue et professeur à la Sorbonne Université, membre de l'Académie des sciences. Le président l'admet, il faudra reconstruire différemment. On a peut-être pris trop de risques avec les constructions jusqu'à présent. Et on continue à le faire, parce que j'ai vu qu'il y a des logements neufs qui sont par exemple construits en France en zone normalement interdite, en zone inondable. Et ça représente beaucoup, beaucoup de logements.
Je pense que le risque, il est inévitable. Ça a été dit, il n'y a pas de risque zéro. Et en fait, les situations météorologiques qui sont créées par la circulation atmosphérique sont multiples, sont presque infinies. Je pense qu'il y a malgré tout des vulnérabilités qui sont en train de croître et dont on doit mesurer ce que cette croissance implique. On va avoir des événements effectivement différents, inattendus.
Oui, oui.
Alors, il y a malgré tout aussi une géographie des régions qui sont concernées, qui prêtent à là où on a des circuits de l'eau qui sont très resserrés, qui sont très, on peut avoir des situations qui deviennent rapidement beaucoup plus graves. Donc il y a tout un diagnostic à faire au mieux de ce que seront surtout, parce que dans le futur ça va nécessairement croître en termes général, que seront les conditions dont il faut essayer de se protéger au maximum. Ça sera jamais zéro, mais je pense qu'il y a une vigilance qui doit être fortement renforcée. On voit quand même se répéter des épisodes.
Oui, et puis dans les mêmes zones, encore une fois.
Dans les mêmes zones où on aurait certainement pu mieux encadrer le débit de la rivière. Et c'est des choses qui demandent surtout beaucoup d'anticipation. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire si on attend le dernier moment.
Même question, Yvette Véret, vous êtes géographe et co-autrice, je le rappelle, de l'Atlas des risques en France, hein, qui est un livre sur les catastrophes naturelles. Alors, on évoquait avec vous, dans un premier temps, l'urbanisation qui pose question, mais que fait-on sur les habitations qui sont aujourd'hui en zone inondable et en zone menacée ? Faut-il les déménager, déconstruire, reconstruire ? Comment on gère les habitants qui sont dans ces zones-là ?
Je crois quand même que, on l'a déjà dit, que analyser le lit majeur de la rivière, le fonctionnement d'un torrent méditerranéen qui n'a rien à voir avec l'écoulement de la Seine ou des fleuves du nord de la France, c'est une chose qui est d'abord fondamentale, savoir que le lit d'un torrent peut divaguer, changer de...
Oui, mais faire des tresses. Pardon madame, mais ça fait 20 ans qu'on dit ça, depuis Vaison-la-Romaine, il y avait eu 47 morts, il y a eu l'Aude, 36 morts en 99, idem en 2002, 24 morts dans le Gard, etc. etc. Donc on a le sentiment qu'on n'apprend pas de nos erreurs et qu'on n'apprend pas du passé.
Absolument, tout à fait. Alors évidemment, on a des réglementations, on a des plans de prévention des risques, que toutes ces communes doivent avoir, normalement, toutes ces communes concernées, mais ces plans de prévention de risque qui justifient ou qui limitent plutôt les constructions dans les secteurs définis comme très dangereux, posent deux problèmes. Premièrement, ce qui est déjà construit en zone inondable, qu'en fait-on ? Et en zone inondable torrentielle. Oui. Et deuxièmement, La difficulté pour les maires en particulier, c'est de faire accepter ces plans de prévention des risques.
Aux habitants,
parce qu'en
vous voulez
fait,
dire.
Ces plans sont très contraignants, si vous voulez. Si vous avez un terrain au bord de la Vésubie, en plus, dans le Midi, on aime les terrains au bord de l'eau. En général, ils ont une certaine valeur. Et que demain, on vous indique que ce terrain n'a plus aucune valeur parce qu'il est en zone inondable, il est bien évident que cela crée des contraintes. Et évidemment, beaucoup de gens qui veulent la sécurité font le maximum pour aller contre les décisions des plans de prévention des risques, pris dans les plans de prévention des risques, et font le maximum pour qu'on modifie à leur profit ces PPR.
Alors je me tourne vers l'architecte et ingénieur qui est à mes côtés en studio, spécialiste des questions de risque majeur, Boris Veliachev. Est-ce qu'il faut aussi modifier la manière dont on construit ces habitats ? Est-ce qu'il existe des façons de construire ces bâtiments, ces maisons qui résistent aux torrents de boue, comme on l'a vu sur les images ces derniers jours ?
Au niveau des constructions elles-mêmes, il existe différentes techniques qui permettent de faire qu'elles soient plus résilientes, qu'elles résistent mieux. Maintenant, quand on a une simple maison qui se trouve au milieu d'un torrent, comme on a vu sur certaines images, avec en plus des troncs d'arbres, des morceaux qui arrivent dedans, il y a peu de chances qu'au bout d'un moment, la maison ne parte pas, surtout que le torrent érode les sols. Il agit comme un rabot et au bout d'un moment, la maison elle va partir avec le morceau de terrain sur lequel elle est. On l'a vu aussi avec la culée d'un pont qui est partie brutalement, sans doute avec un bout de la berge d'ailleurs. C'est parti avec. Donc, qu'il soit bien ancré ou pas, il finit par partir.
Vous évoquiez tout à l'heure prévenir les risques aussi. Ça veut dire améliorer les dispositifs de surveillance, de prévention, de sensibilisation aussi des populations.
On a un problème en France depuis longtemps. On a un système qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves et qui a ses qualités. Mais il a également ses revers. on a un système depuis un certain temps. Le président en avait parlé du fameux fonds Barnier qui a été instauré dans les, sous la présidence de François Mitterrand. C'est un fonds où on paye tous 12% dans nos assurances logement et 6% dans nos assurances voiture. On paye une taxe qui va directement dans ce fonds-là. Et ce fonds, il permet d'indemniser les gens en cas de désastre. On va déclarer une zone sinistrée et l'État se porte garant et indemnise les gens. Alors ce système fonctionne très bien, mais il fonctionne en post-désastre.
Oui.
Le problème avec ce système, c'est son revers, c'est qu'au bout d'un moment, comme le système fonctionne bien et qu'on paye tous ces taxes-là, etc., les autorités, l'État, est de moins en moins, malgré les discours, enclin en fait à financer de la prévention, ce qui est aussi très important et qui doit rester très important.
Oui. Faut-il revoir, pour terminer, ça sera le dernier mot, Hervé Le Treut, faut-il revoir le régime de catastrophe naturelle? J'ai vu que ça datait de 1982 tout de même.
Oui, oui.
On est en 2020, alors, le risque a augmenté depuis.
Alors je ne suis pas spécialiste de cela parce que le droit est très compliqué, mais ce qui est certain, c'est que le droit actuellement crée des situations difficiles. Je l'ai vécu, je travaille beaucoup en région Aquitaine.
Oui.
Il y a des immeubles où les gens ont été évacués, qui ne sont pas indemnisés. Enfin, il y a des situations qui méritent effectivement qu'on arrive à donner une signification à ce que ça veut dire des risques futurs.
Bien.
Les risques futurs existent, ils se créent sous nos yeux, et il faut leur donner un sens aussi dans le domaine de la législation.